10. L'aventure du mort jaloux. Et lors une frayeur va nos cœurs assaillants, le poil nous dresse au chef, et du front goutte à goutte, jusqu'à bas des talons, la sueur nous dégoûte. Si nous sommes au lit, n'osons lever les bras, ni tant soit peu tourner le corps entre les draps. A donc nous est advis que nous voyons nos pères morts dedans un linceul, et nos défuntes mères parler à nous la nuit. Pierre de Ronsard. De nos jours, qui ne connaît le roman du Bel Églantier? Il est vrai qu'il en circule différentes versions, certaines fort augmentées et d'autres très retouchées, et qu'il est parfois difficile de retrouver l'histoire telle que la composa Devin de Belcastel. Qu'importe après tout. Chacun se remémorera la version qu'il a entendue ou lue, et mon livre, enrichi par cette variété de souvenirs, deviendra aussi multiple que l'œuvre de Devin et sa postérité. Il va sans dire que je ne suis point Devin de Belcastel. Peut-être, pour favoriser le succès de ce récit, eût-il été importun de lui en attribuer la composition. J'en conviens du reste. Au moment où les fils du duc Ganelon se rebellaient contre leur père, et où le chevalier de Vaumacel rentrait en Bromel, l'écrivain était encore de ce monde. Bien qu'il vécût alors retiré, il fut néanmoins témoin de certains des événements de cette époque. Mais son existence tirait à sa fin. Il n'aurait pu coucher sur le vélin l'ensemble de l'histoire que, si la volonté ne me fait point défaut d'ici là, j'ai l'ambition de raconter dans son intégralité. Les connaisseurs, en tout cas, ne peuvent se méprendre. Le grand Devin avait coutume de se présenter dès le préambule de ses œuvres. Je n'en ai rien fait. D'autres auteurs, plus modestes, se contentent de révéler leur identité dans le colophon. Je suis encore loin de la conclusion de ce livre, mais je doute en terminer par cette petite vanité. Les noms que j'ai portés n'ont plus grande signification. Je ne m'y reconnais plus. En fait, je m'y perds. L'histoire seule importe. Or, justement, parce que l'histoire seule importe, j'ai eu scrupule à laisser une lacune dans ce livre. J'aurais voulu que le lecteur lût ou entendît l'aventure du mort jaloux telle que Rivalon la récita aux invités du seigneur de Vers. La retraite où j'écris ces pages abrite de nombreux ouvrages, et, en posant la plume sur l'encrier, j'ai conjecturé que la librairie contenait peut-être un exemplaire du Bel Églantier. Il suffisait de mettre la main dessus pour l'intégrer au récit. Sotte inspiration, me suis-je très vite dit. Je n'avais pas tort, car cette fantaisie vient de produire cette glose. Une telle initiative nécessitait de quitter mon scriptorium et de me livrer à des recherches fastidieuses, et puis encore, probablement angoissantes. Certes, cette vaste demeure est emplie de livres, mais il y règne un terrible désordre, et nul index ne permet de savoir où trouver un titre. D'un autre côté, cette démarche pouvait me changer les idées. Cela me donnait aussi l'occasion d'inspecter des pièces, sinon des étages entiers, laissés à l'abandon, et de vérifier que rien de fâcheux ne s'y était produit. C'est pourquoi, après avoir balancé un moment, j'ai mis un nez prudent hors de mes appartements. La demeure que j'occupe est vaste, elle est même beaucoup trop grande pour moi, elle possède d'autres occupants, mais je m'arrange pour les éviter. Notre voisinage est contraint, et ce ne sont point des gens de bonne compagnie. J'ai échoué dans cette grande bâtisse à la suite d'une mésaventure tout à fait sinistre sur laquelle je ne m'étendrai pas. Ce n'est pas le propos de ce livre. En tout cas, la maison ne m'appartient pas, mais j'ai réussi à m'en approprier les clés. Ce fut ma chance. Je ne me sépare jamais du trousseau assez gros et encombrant, et je prends un soin méticuleux à refermer à double tour toutes les portes que je peux franchir. Il en est certain que je ne me risque même pas à ouvrir. C'est au prix de ces précautions que j'ai réussi à établir un statu quo avec les autres habitants. Cela ne m'empêche pas de frémir à l'idée d'avoir oublié de verrouiller un accès ou d'avoir perdu une clé. Je n'ai d'ailleurs jamais eu l'assurance d'avoir le trousseau complet. La possibilité qu'il en existe un double quelque part me tourmente presque chaque nuit. Avant de me hasarder dans des galeries et des patios mitoyens, J'ai d'abord vérifié que le roman ne se trouvait pas tout simplement dans mes appartements. C'est l'endroit de la maison où j'ai l'esprit le plus tranquille. Il faut dire que cette demeure est très biscornue. Les voyageurs ou les lettrés se représenteront une architecture composite, un peu semblable à celle de l'Académie des enregistrements à Bourg-Preux. Les ailes qui composent cette bâtisse portent le sceau de diverses cultures et divers styles. Les chambres où j'ai élu domicile possèdent les beaux volumes et les colonnades délicates aux ornementations végétales des manoirs de l'île de Llwynedd. Une claire lumière y entrerait par les fenêtres en lanterne si les petits carreaux étaient moins encrassés de suie et de toile d'araignée. Je prends plaisir malgré tout à laisser les croisées ouvertes. Mon logis est situé assez haut à l'étage et donne sur un immense jardin sauvage qui se confond avec un horizon bleuté de golfs, de forêts et même de montagnes poudrées de neige. Des ombres gracieuses errent parfois aux limites du jardin. Certaines me font signe de la main, je leur réponds d'un geste, mais je n'ose descendre à leur rencontre. Il me faudrait ouvrir et refermer trop de portes pour les rejoindre. Malgré l'agrément que leur prodigue cette belle vue, je dois reconnaître que mes appartements sont délabrés. Les fresques s'écaillent, les tapisseries pâlissent, les boiseries moisissent, et le mauvais tirage de la cheminée a noirci les plafonds. Je me dis parfois que toute cette suie et toute cette poussière mériteraient un bon coup de balai, mais j'ai peur, en faisant du bruit, d'attirer l'attention des voisins. J'ai d'ailleurs retourné les miroirs contre les murs. Deux précautions valent mieux qu'une. Cependant, pour peu qu'on respecte quelques mesures de bon sens, ces pièces sont assez sûres. J'aurais donc éprouvé un certain soulagement à y retrouver le roman du bel églantier. Hélas! Les livres dont je dispose sont en mauvais état. Beaucoup ont souffert de l'humidité et sont en partie délavés. D'autres ont échappé à un incendie et sont partiellement brûlés. Seuls des fragments plus ou moins longs des œuvres qui y furent consignées demeurent lisibles. Malheureusement, le roman de Devin n'y figurait point, pas même en partie. J'ai donc dû me résoudre à sortir de mon logis. Les cours intérieures de cette demeure sont toujours plongées dans une profonde pénombre. Il me faut parfois utiliser une bougie pour m'y déplacer au milieu de la journée. C'est d'autant plus étrange que l'architecture y est plutôt mauresque. La majeure partie des galeries qui desservent les différentes ailes sont treillissées de moucharabiais. Il déroule de longues théories de caractère géométrique qui estampent les couloirs tels des écritures oubliées. Le corps de bâtiment méridional de l'édifice est toutefois bâti dans un style tchoudalien. Il possède les escaliers droits, le promenoir et les loggias d'un palais patricien, mais d'un palais tombé en décadence. Les degrés s'y affaissent, les stucs s'effritent, les balustrades sont ébréchées. Il y règne la décrépitude des antiques palazzi de Purpurezza, transformés en ateliers d'artistes et en bouges pour gens de sacs et de cordes. Dans la mesure du possible, j'évite cette partie de la demeure. Je m'efforce également de ne pas descendre au rez-de-chaussée. J'approcherai trop de la cave, dont la porte est parfois ébranlée par ce qui s'y trouve enfermé. Par chance, la librairie de l'ancien propriétaire se trouve à l'étage de l'aile récinienne. En fait, elle occupe même plusieurs niveaux. Il s'agit probablement d'une des plus vastes bibliothèques de toute la Transestrie, que seule surpasse la librairie de l'Académie des enregistrements et celle de la grande bibliothèque d'Elissa. Hélas, elle est horriblement mal rangée. En circulant dans ses allées, on devine qu'elle fut jadis ordonnée et que ses innombrables ouvrages ont été classés à une époque, mais l'abandon, la division et la confusion ont depuis longtemps égaré les catalogues et mis à mal tout ordonnancement. En parcourant ces trésors poussiéreux, j'ai l'âme partagée entre l'émerveillement et le découragement. On a l'impression de fouiller l'antre d'un dragon bibliophile. Tout le savoir du monde paraît congloméré dans ce fatras rendu inutile par son amoncellement. J'ai déplacé des piles, ouvert des rouleaux, décroché des fermoirs, feuilleté des codex. J'ai été de surprise en surprise. Les yeux écarquillés sur les joyaux jaunis et les pépites reliées qui craquent sous les doigts. Le canzoniere de Luca Traditore. un exemplaire du trésor sphingidé commenté en rasni classique, deux volumes des annales royales de Léomance, une copie richement enluminée des Sirventes des futaies bleues. Le fragment synchronique attribué, de façon apocryphe, à Herménégilde. Les capitulaires de Léodegard III le Saint. L'inventaire rationalisé des notes tyroniennes établi par Pontus Pigmento. Le discutable, sinon dangereux, structure formelle et approche pragmatique du glyphe de garde, de Philocrise d'Extra. Inévitablement, je succombe à l'envoûtement de tout ce savoir. Je plonge dans ces ouvrages précieux, j'en parcours les tables, j'en lis des chapitres entiers, j'emporte avidement des volumes jusqu'à en avoir les bras rompus. J'abandonne derrière moi certains codex remplacés par une trouvaille plus récente. Je ne connais que trop la dangereuse frénésie qui s'empare de mon âme chaque fois que je me risque dans cette librairie. Et pourtant, j'y cède toujours. Fatalement, aujourd'hui, j'ai perdu le fil des heures. Lorsque j'ai relevé les yeux d'une petite plaquette sur les lettres à attaque fractionnée, je me suis rendu compte que les angles de la pièce sombraient dans l'obscurité et que ma bougie était basse. La nuit tombait. J'avais imprudemment tardé hors du havre que me procure mon logis. Recueils poétiques, textes juridiques, ouvrages de cosmographie, de calligraphie, de magie naturelle et moins naturelle s'étaient offerts à ma curiosité, mais rien d'aussi futile que des romans. Tant pis. Il était plus que temps de refermer cette librairie à double tour et de regagner la sécurité de mes appartements. J'étais sur le point de sortir, quand, dans un monceau de livres abandonnés au pied d'un lutrin, mon attention a été retenue par une couverture lacérée. Un chat avait eu la désinvolture de faire ses griffes sur une luxueuse reliure de cuir. Tout en pestant contre le petit vandale, j'ai quand même ramassé le livre marqué. Mirabilis possède un vrai don pour dénicher ce que je recherche. Bien sûr, je n'ai pas découvert le bel églantier, mais une version en prose du Soledano Innamorato. Au moins, il s'agissait bien d'un roman. Par acquis de conscience, j'ai entrepris d'ouvrir les autres volumes de la pile. Une rumeur sourde est remontée des sous-sols et le tremblement de ma main s'est communiqué à la flamme de ma chandelle. En prenant sur moi, j'ai poursuivi malgré tout mes vérifications. Deux autres romans, Soledano Furioso, Le Morte de Diffinval. Une épopée. La chanson des preux. J'entendais à présent qu'on traînait quelque chose de lourd à la cave. Il devenait urgent de vider les lieux. D'autant plus urgent que bientôt, un choc caverneux a ébranlé les murs. Mais alors même que le cœur allait me manquer, j'ai ouvert un petit volume qui ne payait pas de mine. Sur la première page, deux vers célèbres ont accroché mon regard. Les armes de ce chevalier étaient frappées d'un églantier. Abandonnant tous mes autres butins, j'ai serré le livre contre ma poitrine et j'ai couru jusque chez moi aussi vite que me l'ont permis toutes les portes à ouvrir et à refermer. Dans les profondeurs ténébreuses du patio, j'entendais fourrager furieusement, mais ce vacarme inquiétant me parvenait toujours étouffé par de solides battants de chêne. Une fois bâclée l'entrée de mes appartements, j'ai vérifié que nul indésirable ne s'y était glissé en mon absence, puis j'ai fermé les fenêtres et barré les volets intérieurs. J'ai également murmuré une formule conjuratoire et rafraîchi quelques charmes apotropaïques. En revanche, je n'ai pu redoubler ses défenses par une poignée de sel. C'est incroyable. Je perds tout le temps mon sel. Après avoir repris mon souffle et calmé mes esprits, j'ai déposé le fruit de ma rapine sur une écritoire afin de le feuilleter. Ce petit livre n'a rien de luxueux. Il s'agit d'une copie établie dans une cursive assez lisible, mais non exempte d'abréviations. Des espaces blancs ont été laissés à la place de certaines lettrines, qui n'ont même pas été esquissées. L'ouvrage, une fois qu'il a été terminé par le copiste, a donc été relié sans avoir été confié à un enlumineur. Il en résulte que certains vers sont dépourvus d'initiales, ce qui donne un aspect lacunaire au texte. Le caractère un peu négligent de cette exécution permet de cerner en partie le profil de son commanditaire. Ce codex n'a rien de l'écrin raffiné qu'un véritable admirateur de Devin de Belcastel aurait souhaité posséder. Il ne s'enrichit pas non plus des ornements précieux que les lettrés, nobles ou ecclésiastiques, exposent complaisamment aux yeux de leurs visiteurs. Il ressemble davantage à la copie de travail qu'un clerc ferait d'une œuvre à son programme. Mais nulle école n'étudie quelque chose d'aussi frivole qu'un roman, si populaire soit-il. J'en conclus que le premier propriétaire de cet exemplaire s'était intéressé à cette œuvre pour soigner sa culture générale plutôt que pour le plaisir. J'y discerne un esprit lettré, probablement supérieur, mais d'origine humble ou étrangère, soucieux de maîtriser les références d'une société aristocratique où il devait frayer. Qu'un docte ou un scoliaste ait éprouvé le besoin de posséder un exemplaire du Bel Églantier, même sans penchant particulier pour le roman, témoigne assez du succès de cette œuvre. Diverses raisons y concourent sans doute. Il est de bon ton de louer le caractère prenant de ses intrigues, qui compile d'ailleurs bon nombre de légendes du duché de Bromel, tout en y cherchant des sens cachés. Il me semble pour ma part que la signification du livre est très surévaluée. La forme a sans doute davantage contribué à sa popularité. Si les grands gestes et les amples romans composés à l'époque du royaume de Léomance sont toujours connus de nos jours, leur langue a vieilli. En versifiant son œuvre dans le dialecte bromalois dérivé du léonien, Devin l'a rendu beaucoup plus accessible au public des cours et des villes. Le cadre qu'il lui a donné lui a également permis de se démarquer de toute la littérature héroïque composée depuis la chute de la Léomance. Pendant plus d'un siècle, poètes et littérateurs ont pris pour sujet la guerre des grands vassaux. De nombreuses chansons de gestes circulent sur cette période tragique. En situant l'action de son roman sous le règne du duc Ardre, soit 20 ans après l'effondrement de la Léomance, le romancier a séduit le public noble, qui s'est davantage reconnu dans le Bel Églantier et sa société que dans les figures épiques de « La mort, le roi Madan » ou de « La chanson des preux ». Enfin, le règne du duc Ardre présente une singularité que Devin a su brillamment exploiter. À l'époque, le clergé du desséché était toujours frappé de bannissement en Bromel, car la réforme Yémal ne lui avait pas encore soustraite un certain nombre de fonctions séculières. L'exil des dessicatoriens fut, au cours de cette période, cause de désordres religieux et occultes, dont Devin de Belcastel a tiré l'argument des aventures du Bel Églantier. Malgré son exécution sommaire, l'exemplaire que j'ai déniché dans la librairie paraît assez complet. En tout cas, l'aventure du mort jaloux y figure. Je ne peux certifier que la lettre du texte d'origine y soit absolument respectée, mais ce que j'en recopie me semble plutôt fidèle au souvenir que j'en ai conservé. Ce jour-là, le Bel Églantier avait longuement chevauché à travers les bois et les landes des hautes terres d'Agurande. Souffrant de faim et de froidure, il vit une colline obscure, et sur ce sombre belvédère, le croc d'une tour solitaire. En quête du gîte et du feu, il marcha jusqu'au triste lieu. Point de lumière ni de son, tout lui parut à l'abandon. Point de vilain aux alentours, point de guetteur dessus la tour, point de sergent aux huisseries, point de chevaux aux écuries, on pénétrait dans ce fortin comme un rustre dans un moulin. Personne pour corner l'alerte. La cour était toute déserte. Le Bel Églantier, fort mari, lança cependant quelques cris. Parut alors une figure qui n'avait pas vilaine allure. Penchée à sa haute fenêtre, posait le plus charmant des êtres. C'était une dame un peu pâle, mais d'une beauté sans égale, dont la nonchalante langueur avait fait battre plus d'un cœur. Et la dame, de son côté, vit bien que le Bel Églantier ne portait point mal son surnom. Elle lui lança tout de bon ses étranges salutations. « J'ai grande honte et confusion, chevalier, vous m'avez fait peur, je craignais quelques maraudeurs. » En déplorant sa pauvreté, elle offrit l'hospitalité. Sa grand salle était dépeuplée. Au sol moisissait la jonchée, aux voûtes tissait l'araignée dessus les tentures fanées. En se plaignant de sa misère, la dame servit maigre chair. Mais le sire avait grande liesse d'être ainsi seul avec l'hôtesse. Il loua sa grande beauté et confessa être étonné de la découvrir esselée. Elle dit d'une voix peinée, « Je dois hélas pareille épreuve au cruel malheur d'être veuve. Mon seigneur était fort jaloux, en un duel et d'un seul coup j'ai perdu ami et époux. Cette double mort m'a ruiné, tous mes gens m'ont abandonné. Depuis, il ne se passe une heure sans que je tremble et que je pleure. Les nuits me remplissent d'effroi car les ombres y viennent à moi. » Le chevalier plaignit la dame et lui offrit sa bonne lame pour le service d'une nuit, afin qu'elle dormît sans souci. La dame en fut reconnaissante et le dit de façon galante. Le bel églantier renchérit si bien qu'elle lui ouvrit son lit. Mais la chambre était si humide que la dame en devint timide. Comment s'octroyer doux déduit au milieu des bas si transis? Faute de feu et de valets, on y perdait tous ses effets. Le chevalier qui avait froid se chargea de monter du bois et dans la grande cheminée bouta une bonne flambée. Il avait l'espoir d'enflammer la dame ainsi que ce brasier. À peine glissé sous les draps, prenant son ami dans les bras, le chevalier fut contrarié d'entendre un galop résonner. Les fers d'une rosse boiteuse claquaient dans la cour ténébreuse. La dame, fort épouvantée, repoussa de ses mains crispées l'ami qu'elle allait satisfaire. Dans sa peur, elle ne put taire un aveu vraiment inouï. « Ciel, je crois que c'est mon mari !» Le chevalier fut étonné. « Ne m'avez-vous pas raconté être affligé de durs veuvages ?»«
Je vous le redis sans embâge, mon époux a été tué, je l'ai vu mort et enterré, mais son désir brûle si fort qu'il revient encore et encore. L'horreur a fait fuir tous mes gens et me livre à ses bas penchants, tout comme s'il était vivant. »
Le chevalier n'eut pas le temps de mettre en doute sa parole, même s'il la crut un peu folle. Un pas traînait dans l'escalier. Et sitôt, le bel églantier, quoiqu'il fût nu, tira l'épée. Soudain, la porte fut poussée avec une grande violence, souffla un vent de pestilence autour d'une forme spectrale. Une voix gronda, sépulcrale. « Sale catin! Ah, femme vile! Je ne peux reposer tranquille. Après m'avoir déshonoré, voici que vous me remplacez !»
La dame poussa les hauts cris, et le bel églantier sentit son cœur bien près de défaillir. Le mari aurait dû gésir, car il était tout décharné et noir, avec le nez mangé. Mais le preux reprit ses esprits et lui adressa son défi. « Dehors, maudite créature, vis de ces lieux, odieux les murs, où par ma foi il t'encuira !»«
Que pèse la foi d'un goujat ?» railla le défunt visiteur. « Je ne vois qu'un fornicateur qui est venu souiller ma couche. » Et ouvrant une horrible bouche, il fondit sur le chevalier. Celui-ci lui trancha la main et lui fendit les intestins, mais le fantôme était si mort qu'il n'avait cure de ses torts. Il prit le preux à bras le corps pour lui faire un terrible sort. Le mort avait saisi le vif, presque comme un amant lascif, et il voulait le dévorer de tous ses chicots déchaussés.
Le chevalier lui fit manger quelques pousses de bon acier, mais ne parvint à s'en défaire.
Les lutteurs roulèrent à terre, jusqu'au bord de la cheminée. D'une poussée désespérée, le vif jeta le mort au feu. Ému par un transport furieux, il empoigna un tisonnier, il en creva l'osseux bréchet pour l'enclouer aux bûches ardentes. Dans une danse flamboyante, le spectre voulut s'échapper, mais de l'épée fut rebuté et se consuma tout entier. Le chevalier illuminé clama d'une voix triomphante à son hôtesse pantelante, « En vérité, quel amour fou! Voyez comme on brûle pour vous !» Encore tout congestionné, il s'en retourna la baiser, pour conclure un autre haut fait, tant que le mort les réchauffait.